Alors bonsoir à chacun. Je vous propose de continuer notre cheminement vers la solennité de l'Immaculée Conception à la lumière des sacrements. Hier, nous avons abordé le sacrement du baptême, hein, ce sacrement qui nous configure à la mort et à la résurrection du Christ et qui nous appelle à la sainteté, à nous configurer à la vie de Jésus, au don qu'il a fait de sa vie pour la donner à notre tour. Alors il y a différentes manières de donner sa vie. Il y a différentes vocations dans l'Église. La vocation la plus fondamentale étant, et c'est très important, la vocation à la sainteté. Souvent, on a abordé la question des vocations de façon un peu bipolaire. Il y a la vocation au mariage, puis la vocation sacerdotale ou religieuse avec ce célibat pour le royaume. Lumen Gentium, qui est la constitution sur l'Église, nous rappelle que chaque membre de l'Église est appelé à cette vocation fondamentale à la sainteté. Donc il n'y a pas une personne qui est sans vocation. Ne me dites pas que vous n'avez pas de vocation. C'est simplement pas possible. C'est une hérésie que de dire à quelqu'un qu'il n'a pas de vocation. Par ailleurs, c'est précisément en répondant à la grâce baptismale, à ce don que le Christ me fait de sa vie au quotidien, cette vie qui retentit à travers mes engagements concrets, c'est en répondant jour après jour que un chemin se dessine. Donc c'est en répondant à l'appel de Jésus, ici et maintenant, que je découvre le moyen pour grandir en sainteté. Alors, de ce point de vue-là, la vie consacrée, le mariage, est un moyen pour grandir dans cette vocation à la sainteté. Alors, là encore, vous me dites, oui, mais vous parlez de la vie consacrée, ou bien du sacerdoce, du célibat pour le royaume, ou du mariage. Qu'en est-il des autres vocations ? Bien, encore une fois, tous les états de vie, la personne qui est veuve, la personne qui a connu une épreuve dans le cadre de son mariage, qui est séparée, elle est, elle aussi, évidemment, appelée à la vocation à la sainteté. Cette vocation à la sainteté, personne n'en est privé. Ça, c'est extrêmement important. C'est elle, d'ailleurs, qui nous comble. Donc, vous pouvez être éprouvé par le fait de dire, mais en fait, je désirais me marier, je me suis mariée, et j'ai tout misé sur ce mariage. Et c'est juste. Et vous dites, ben voilà, j'ai abouti à un échec, ça n'a pas marché. C'est pas le dernier mot de Dieu, mes amis. Le dernier mot de Dieu, c'est que plus profondément que l'épreuve, que l'échec, il continue de donner sa vie. La croix est un échec profond. À la croix, que nous est-il révélé à travers la mort de Jésus ? C'est notre incapacité d'aimer. Donc c'est un échec profond. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là, puisque à travers l'épreuve de notre incapacité d'aimer qui s'exprime, à travers sa passion, sa mort, il continue de donner la vie. Et ça, c'est un choix qu'on peut poser toujours et encore. Continuer de donner la vie, quels que soient nos chemins. Vous savez, il n'y a pas un chemin qui est rectiligne vers le ciel. Ça, c'est le résumé que le Seigneur fait de nos chemins. Mais nos chemins sont faits de courbes, de recherches, d'hésitations, faits de chutes, de relèvements, et comme le chemin du peuple d'Israël. Nous avons à nous laisser façonner, et précisément les lieux précis où on se laisse le plus façonner, ce sont les lieux où on est démuni, en disant « Mais Seigneur, je ne comprends pas là ce qui m'arrive. J'ai répondu à ton appel, ma vocation c'était le mariage, et voilà que je suis face à une difficulté. Que vous dit Dieu à ce moment-là ? Ben, la vie n'est pas finie. La vocation à la sainteté, elle continue d'être d'actualité. Vous pouvez toujours et encore choisir plus profondément que l'épreuve de mort qui vient comme s'inscrire dans votre vie. Vous pouvez vous tourner vers cette vie profonde parce qu'il a tout donné. Alors, c'était important pour moi de poser cela comme préliminaire parce qu'on va évidemment parler du sacrement de mariage, mais je ne voulais pas en parler indépendamment des autres vocations, parce que les vocations, c'est clair, l'une l'autre. Moi, j'ai des frères et sœurs qui sont mariés dans ma famille, et quand je vais, par exemple, pendant les vacances de Noël, j'ai ma sœur qui est mariée, qui a des enfants, quand je la vois, je me dis, oh là là, je suis loin de la sainteté. Hein, quand je la vois se réveiller en pleine nuit hein, parce qu'un enfant est malade, qu'il crie, qu'il ne sait pas dormir, quand je la vois se lever le matin pour être là, pour les conduire à l'école, quand je la vois soucieuse de l'avenir d'un chacun, je me dis, mon Dieu, dans ma vie de consacrée, j'ai beaucoup à apprendre. Si je vous dis ça, c'est simplement pour vous dire que les vocations s'éclairent les unes les autres et on en a besoin. Hein. La vie des sœurs ici à Notre-Dame-des-Victoires vous éclaire sur la finalité de votre vocation. Hein. C'est vrai que dans le cadre du mariage, de la famille, du quotidien, on a toujours un peu le nez dans le guidon. Hein. Et puis voilà, mais la vocation qui consiste à vivre un célibat pour le royaume vous rappelle la finalité. Attention, la finalité, c'est pas simplement la réussite terrestre, que vos enfants réussissent, mais rendons grâce. Mais la vraie finalité, c'est qu'ils puissent être des saints. Hein. Pas que ce que... Enfin, quand je dis que la vocation religieuse nous ramène à cette finalité, il ne faut pas croire que les consacrés sont plus saints que les couples et les familles. Rien à voir. Ce n'est pas un degré de sainteté, c'est simplement que le célibat pour le royaume signifie une finalité. Alors je peux vous dire qu'on y arrive plus ou moins bien. Et puis la vocation au mariage nous rappelle la façon très concrète d'arriver à cette finalité. Je ne peux pas m'orienter vers cette finalité qu'est le royaume des cieux sans vivre une charité extrêmement concrète. C'est pas possible. Donc les vocations s'éclairent les unes les autres. J'ai eu une amie en Belgique que je vais visiter du coup quand je vais voir ma famille et j'ai été témoin à son mariage. Et donc là aujourd'hui elle est séparée, ça a été vraiment une rude épreuve. Et bien quand je vais la voir vraiment, hein, et je vous le dis en vérité, elle m'édifie dans sa manière de vivre cela dans une confiance en la vie, avec un courage, parce qu'elle a, elle a tous les enfants, elle a dû retrouver une maison. Enfin, vous savez, une séparation, c'est pas évident concrètement, avec tout ce que ça veut dire. Ça demande énormément de courage et aussi de foi dans l'avenir, en fait. Et quand elle me parle de la manière dont elle a vécu ça, eh bien, elle m'éclaire aussi sur ma vocation. Les personnes qui sont veuves, moi ça m'impressionne beaucoup parce que évidemment, voilà, on a vécu avec une personne pendant des années, il y a eu un compagnonnage, les décisions se sont prises ensemble, hein, on a édifié ensemble beaucoup de choses. Évidemment, il y a la venue des enfants, c'est un être ensemble qui se concrétise de façon profondément réelle et magnifique. Et puis, il y a tous les choix qu'il faut poser dans la vie, etc. Et puis, tout à coup, il y en a un qui meurt, qui précède l'autre au ciel. Et puis, là, voilà, il y a une personne qui doit continuer son chemin de façon radicalement différente, en fait. Donc, il y a ce mariage et en même temps, Il y a cette mort qui nous sépare, et puis il y a cette vie éternelle qui nous offre une présence, mais qui n'est pas la même. Hein, parce que dans le cadre du mariage, la tendresse, l'amour concrètement vécu est extrêmement important. Et là, le corps de l'autre mis en terre me rappelle qu'il y a une promesse en la vie éternelle par rapport à laquelle tout à coup je me situe. Hein. Donc nos vies sont marquées par des chemins que l'on emprunte. Et puis tous ces chemins sont appelés à s'orienter vers ce royaume des cieux. Et concrètement, à partir de ce choix de la vie éternelle. Alors là, on va rentrer dans la réalité plus concrète qu'est le mariage. Alors quels sont les textes d'écriture de la Bible qui viennent nous éclairer sur cette vocation, hein ? Tout d'abord, il y a le livre de la Genèse. On voit à quel point, dès la création, l'homme et la femme sont appelés à vivre une vocation qui est à l'image de Dieu. Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Ce qui est très intéressant, c'est que le « faisons » est au pluriel. Et pour nous chrétiens, ce pluriel nous réfère à la Trinité. D'accord ? Donc « faisons l'homme à notre image ». Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il le créa. Le mot « image » disparaît et il donne la place à l'homme et à la femme. Comment est-ce que l'être humain va réaliser cette vocation à l'image de Dieu à travers une radicale altérité? L'homme et la femme sont radicalement, ça veut dire à la racine de leur être, différents. Hein? On n'est pas créé humain avec des caractéristiques féminines ou masculines, on est créé homme ou femme. Et donc le fait que l'autre soit autre, c'est ça qui est important, cette altérité m'ouvre un espace. Si l'autre est elle-même, ce ne serait pas très intéressant. Hein? À ce moment-là, je peux me regarder dans le miroir, ça ira très bien. Et je peux vivre ma vie en me regardant dans le miroir. Mais l'autre est autre. Et le fait d'être homme, d'être femme, exprime cette altérité. Donc, dans la relation, il est important, c'est assez décisif, que cette relation soit une relation qui nous ouvre à l'avenir. Alors, quand je parle d'avenir, c'est très concret, c'est à une vie plus grande. Quand j'accueille des fiancés, ou bien des personnes qui réfléchissent à des fiançailles, ce qui me semble décisif, c'est que leur relation soit l'un pour l'autre un chemin de vie. Et je leur pose souvent une question très simple, et à la fois qui peut résonner de façon complexe. Je leur dis, mais est-ce que tu es bien quand tu es avec l'autre? Parce que être bien, ça veut dire que quand je suis avec lui, je peux être moi-même. Voire même plus, j'accède à des dimensions que je n'avais peut-être pas découvert jusqu'à présent. On voit comment un regard aimant, un regard bienveillant, un regard qui me reçoit tel que je suis, m'ouvre à une vie. Ça, c'est extrêmement important. Ça, ce sont des relations de communion. Il y a un autre type de relation qui peut envahir la relation homme-femme et nos relations au quotidien, c'est les relations utilitaristes. À la place de reconnaître la personne pour elle-même, je me réjouis qu'elle soit, j'aime son visage, j'aime prononcer son nom, etc. Je peux avoir une relation d'utilité. Alors, que l'on soit utile les uns aux autres, ça c'est évident. Mais la relation d'utilité, elle ne peut pas se suffire à elle-même. Il faut qu'on n'ait pas que utile les uns aux autres. Le risque de l'utilité, c'est que la relation se mesure à moi-même. Ça veut dire au besoin que j'ai de l'autre, à l'usage que je fais de l'autre, etc. Et à ce moment-là, le risque, c'est de mettre une main sur ce que peut m'apporter l'autre et de ne plus considérer la personne pour elle-même. Dans la relation, il y a toujours ce choix à faire. Bon, je suis fatiguée, j'ai besoin de toi, je m'attendais à ce que tu fasses cela, etc. Donc voilà, évidemment, ça arrive, hein, on a des besoins très concrets. Et en même temps, ce qui vient profondément nous consoler, c'est un peu de prendre du recul par rapport à nos besoins concrets et de se tourner vers l'autre et vers le bien de l'autre. Quel est son bien? Et souvent, quand je discerne son bien et que je participe à ce bien, eh bien, il retentit sur moi. Ça, ce sont des relations de communion. Donc, il y a un choix profond, hein, au niveau relationnel, quel que soit le stade par rapport au sacrement du mariage, que ce soit avant les fiançailles, pendant les fiançailles, dans le cadre du mariage, la question, l'autre, en tant qu'il est donné à lui-même, et comment est-ce que je suis au service de son bien, au service de sa vocation? Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est très servile. Non, parce que sa vocation me révèle la mienne. Plus je suis au service de la vocation de l'autre, plus j'accède à qui je suis. D'accord? Alors, c'est ainsi qu'on apprend à se connaître. C'est ainsi qu'on apprend à vivre ensemble et qu'on apprend pas seulement à être l'un à côté de l'autre ou bien l'un et l'autre en rapprochant, mais qu'on apprend que fondamentalement, il n'y a pas simplement il ou elle, il y a à travers ce souci du bien de l'autre qui est partagé, puisque l'autre associe de mon bien, du coup, le bien du couple qui apparaît. Moi, le passage de la vie du couple aux fiançailles, c'est précisément quand les amoureux commencent à sortir un peu du jeu amoureux, qui est normal, hein, qui n'est pas mauvais, c'est normal. On se découvre, il y a des désirs, etc. Il y a un jeu amoureux. Hein, et donc, il faut un peu sortir de là pour dire, mais plus profondément que le désir que j'éprouve, que les sentiments que j'éprouve, je veux son bien et je découvre à quel point il y a le bien du couple. Quand c'est réciproque, je commence à veiller sur le bien du nous. Alors quand je reçois des fiancés, je suis toujours très très attentif à la façon dont ils se nomment l'un l'autre. Vous savez, il y a une manière de dire le nom de l'autre qui peut être extrêmement révélateur. Alors c'est vrai que quand ils sont amoureux, inévitablement, la manière de nommer est assez belle. Alors ça peut être marqué de sentiments, de désirs, mais il y a quand même une manière de nommer l'autre avec infiniment de respect, en le respectant comme autre, précisément. Je l'aime parce que c'est lui, parce que c'est elle. Je ne l'aime pas simplement parce que elle est intelligente, elle est jolie, ça pourrait être la belle-fille parfaite pour mes parents. Ça, c'est encore extérieur. Alors, ça peut participer. On peut être attiré par des dimensions de la personne. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va s'engager ? Qu'est-ce qui fait qu'on va s'engager ? Il y a un moment donné où c'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est elle. Vous savez, c'est le moment où le défaut apparaît charmant, comme charmant. Il y a un moment donné où le défaut et la qualité deviennent secondaires par rapport à la personne. Alors la personne, vraiment, je l'aime pour qui elle est. Et puis en même temps, je découvre que son être m'échappe toujours. Vous n'aurez jamais fini de faire le tour de la personne, en fait. Vous n'aurez jamais fini d'apprendre à connaître l'autre. Il y a une dimension infinie qui est reliée à sa relation à Dieu. Aujourd'hui et maintenant, cette personne reçoit la vie de Dieu, elle vit sa relation avec Dieu, donc elle est habitée par un mystère qui est infini et qui s'exprime à travers son visage. Le jour où je me dis « j'ai fait le tour », c'est vous qui êtes en tort. C'est pas possible, c'est simplement pas possible. On ne fait pas le tour d'une personne. Une personne a en elle cette dimension sacrée qui est sa relation à Dieu, qui fait qu'elle est un mystère pour elle-même. Par rapport à vous-même, vous reconnaissez bien que, oui, vous vous connaissez un peu, mais il y a toute une part mystérieuse qui ne cesse d'apparaître au fur et à mesure de votre vie. Est-ce que ça va jusque-là ? Hommes et femmes, altérité, vocation à la communion. Donc, quand on commence à veiller sur le nous, on comprend qu'il y a un bien qui est commun. Et quel est ce bien qui est commun ? C'est la vie de l'un et de l'autre, et donc la vie du couple qui à un moment donné peut devenir vie de famille. Donc que veut dire au fond entrer dans une relation engagée et c'est décider de s'engager par rapport à la vie du couple, par rapport à ce bien du couple, c'est décider de faire croître le nous du couple. Jean-Paul II parle du mariage comme étant une communion d'amour. Ça marche ? Communion d'amour. J'aime l'autre, mais pourquoi est-ce que je l'aime ? Pour qu'il vive davantage. Mon regard d'amour sur la personne va lui révéler davantage qui elle est. Alors, inévitablement, nous ne sommes pas avant le péché originel. Vous savez, avant le péché originel, ils étaient nus l'un devant l'autre et ils n'avaient pas honte. Donc, ils se recevaient pleinement l'un par l'autre de Dieu. Ça semble assez simple. Cette simplicité, il faut le reconnaître, on l'a un peu perdue. On est marqué par les conséquences du péché originel. Cette distance qu'on a prise avec notre Créateur et qui fait que l'altérité est moins lisible. L'altérité, quand on est éloigné de Dieu, elle peut devenir une différence dérangeante. L'autre me dérange dans ce qu'il est. Il n'est plus le lieu même où j'accède à la vie. Donc ça, c'est la difficulté de la distance liée au péché originel, cette distance qu'on a prise avec celui qui nous donne la vie. Et donc, l'être homme et l'être femme n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, à quel point c'est une question très actuelle. Ça veut dire quoi être homme ? Ça veut dire quoi être femme ? Et c'est typique d'une société qui a pris distance avec d'une société qu'on pourrait appeler société post-athée. On n'est pas dans une société athée aujourd'hui, on est dans une société post-athée qui a pris distance avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on prend distance avec Dieu ? On ne sait plus très bien qui on est, comme être humain, comme homme, comme femme, et puis on se confond même avec les créatures, voire avec la technique, avec la machine. Hein, aujourd'hui, les questions de transhumanisme, etc., manifestent cela avec force. Mais voilà, ça c'est d'autres questions. On en revient à notre sujet. Après le péché, la vocation de l'homme et de la femme ne sont pas si simples. Avant le péché, dans le texte de Genèse, vraiment, il s'agit vraiment de l'homme et de la femme, de Ish et de Isha, qui sont donnés l'un à l'autre. Après le péché, vous savez, quand l'homme dit « c'est la femme », vous voyez ce passage-là, il dit « c'est la femme », en fait, ce n'est pas le mot « femme », parce que le mot « femme » n'apparaît plus. C'est comme s'il ne reconnaissait plus celle qui lui était donnée et qu'il pouvait appeler femme, parce que c'était le nom que Dieu a donné à la femme. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? C'est ma compagne, c'est celle que tu as mis à côté de moi. Mais c'est comme si, voilà, la distance avec Dieu avait aussi inscrit une distance entre l'homme et la femme. Et donc, inévitablement, on en souffre un peu aujourd'hui. Il faut un peu se réapprivoiser. Dans la tradition juive, c'est beau, le mariage est présenté comme un miracle plus grand que la traversée de la mer Rouge. C'est quand même immense. Vous voyez le miracle qu'elle a traversé la mer Rouge, le peuple juif qui traverse la mer Rouge à Pâques pour être libéré d'Égypte. Le mariage est un miracle plus grand, parce que qu'est-ce qu'on doit traverser ? On doit traverser l'épreuve du péché. Et donc, c'est une réalité inscrite dans notre vie. Alors, nous, comme chrétiens, on a quand même la chance d'être baptisés. On a abordé ce beau sacrement du baptême hier. Donc, on sait que le Christ est venu nous sauver. Et donc, même si le péché a abîmé mon humanité, et donc aussi ma capacité d'aimer, je sais que je peux reposer ma capacité d'aimer sur un amour plus grand, qui est cet amour du Christ qui a donné sa vie pour l'Église. Être baptisé, c'est vivre ainsi les relations, d'accord ? Quand je suis baptisé, je sais que je vais très vite être énervé par tel ou tel caractère, par tel ou tel... Vous savez, c'est souvent dans le cadre du travail, parce que vous choisissez pas forcément les collègues avec qui vous travaillez. Donc là, typiquement, vous pouvez être très heureux de telle qualité d'un collègue et puis avoir ce collègue qui a tel défaut, qui travaille juste à côté de vous et qui est exaspérant. Donc on voit comment les relations sont quand même devenues très complexes. Alors ô combien, mes amis, dans le cadre d'une vie en couple, dans le cadre d'un mariage. Ici, si on parle en termes de mariage naturel, des personnes qui s'engagent l'une vis-à-vis de l'autre, est-ce que vous comprenez que cet amour, il a besoin d'être sauvé ? Ça, je pense que ceux qui sont mariés, ceux qui ont connu l'expérience du mariage, le confessent volontiers, qu'il y a un moment donné où ça craint. Et tout mariage... Alors, vous avez beau voir le couple tout à fait parfait avec les quatre enfants très bien habillés qui viennent à la messe et vous y dites « Ah non, mais eux, ils ont de la chance, ça a l'air de très bien marcher. » Attendez de voir. Inévitablement, deux personnes qui se rapprochent l'un de l'autre et qui entrent dans une telle intimité qui consiste à se recevoir l'un de l'autre, eh bien, nous révèlent nos faiblesses, nos limites. Quand on avance dans le cadre d'une relation intime, dans une relation proche, on découvre nos forces, on découvre de plus en plus qui on est, mais à travers ça, on découvre aussi nos faiblesses. C'est inévitable. Dans une communauté religieuse aussi, les sœurs entre elles, inévitablement, il y a des belles grâces de fraternité, mais ça ne peut que frotter aussi. Et donc quand ça frotte, il faut se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour avancer ? Comment est-ce qu'on fait pour avancer ? Mais ça, c'est encore d'un autre ordre. Mais donc voilà, hommes et femmes qui vivent cet engagement jusqu'à se donner. Vous vous rappelez, quand on a parlé du corps, on a dit que le corps était le sacrement de la personne, révélait la personne. Et donc quand on se donne à travers son corps, on ne peut que se donner entièrement. C'est ce que je dis, moi, j'essaye de dire un peu aux ados, vous savez, ces ados à qui on essaye de parler un peu de la chasteté, on leur dit, faites attention, parce que votre corps, c'est pas n'importe quoi. Votre corps, c'est vous. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous faites de ce don qui vous appartient et qui, en fait, porte un secret incroyable, un secret d'histoire, Hein, il est le corps et le résumé de l'histoire, de votre histoire humaine, mais aussi de l'histoire de sainteté, en fait. Et donc, quand on se donne dans le cadre du mariage, à travers ce corps, on donne tout ce que l'on est. Et donc, inévitablement, dans le cadre de l'avancée, dans le mariage, à travers les années de mariage, on découvre des limites qu'on ne connaissait pas. Parce que plus j'aime, plus mon histoire remonte. Est-ce que vous voyez ça? Oui, quand on est ado, jeune adulte, surtout quand on est amoureux. Hein, donc on est tout entier tourné vers l'avenir. Mais à chaque fois que je fais un pas avec l'autre dans l'avenir, c'est aussi mon histoire qui est récapitulée. Et une histoire qui a besoin d'être réconciliée. Notre histoire, elle n'est pas tout à fait réconciliée. Hein. C'est la charité par rapport à laquelle on s'engage qui vient la réconcilier. Donc, dans le cadre du mariage, je suis face à la grâce de l'amour qui vient me rejoindre, l'amour de l'autre, mon amour. Je suis face à la limite de cet amour et je suis face de plus en plus à la révélation de mon histoire à travers ses forces et à travers ses faiblesses. Et donc, c'est la raison pour laquelle, vous savez, enfin, ce midi, j'ai déjeuné avec une jeune femme qui me disait « Ben, au fait, ça fait 20 ans qu'on est mariés et il y a 2 ans, mon mari est rentré dans une profonde dépression. » Parce que, dans le cadre de notre relation, il avait il y a une dimension de son histoire qui est revenue au jour avec force et ça a été trop dur à porter à un moment donné. Et je suis sûre que les personnes qui sont mariées depuis déjà plusieurs années, bien, le mariage, dans le mariage, ça arrive souvent en fait. C'est des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et donc, et des crises aussi. Des crises existentielles en fait. Et en même temps, ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il faut aussi dire que si Jésus est venu récapituler l'histoire humaine, ô combien, comme baptisé, on est amené à récapituler notre histoire et à travers l'amour que l'on porte, aider l'autre à récapituler son histoire. Il faut qu'on fasse de notre vie une action de grâce. Mais ça ne se fait pas de façon imaginaire, ou que sais-je. Ça se fait de façon très incarnée, très très incarnée. Et là, vous comprenez peut-être quelque chose. Donc ici, je n'ai pas encore parlé tout à fait du sacrement du mariage. J'ai parlé du mariage tout court. Ce que je décris là, quelqu'un qui se marie civilement, le vit ça. Mais ce que vous comprenez à travers ce que je dis, c'est que, et on en a déjà un tout petit peu parlé, c'est qu'on a besoin d'être sauvé. On a besoin d'un amour plus grand qui vient porter notre amour au-delà des difficultés, qui nous aide à traverser ces difficultés, ces faiblesses, parce que le Christ a donné sa vie pour l'Église. Le Christ l'a aimé, et comment est-ce qu'il l'a aimé ? Il a donné sa vie pour l'Église. Donc, la Genèse nous parle d'une vocation à la communion. Nous avons l'épreuve du péché, l'événement de l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus. Et comment est-ce que saint Paul, à la lumière de la mort et la résurrection de Jésus, décrit le sacrement du mariage ? Il dit « L'homme et la femme sont appelés